Julien, il est 15h, c'est place à Maintenant j'y vais, on n'attend plus que toi.
Si comme moi, vous attendez ce moment toute la semaine, si dès que l'heure fatidique approche, vous augmentez le son, attachez vos ceintures, restez derrière vos postes de radio ou de vos smartphones, parce qu'il est prêt, il replace sa cravate, vérifie ses boutons de manchette, un dernier regard dans le miroir, le voici. Chaque mercredi après-midi, pendant une heure, découverte musicale et culturelle avec Julien. 15h-16h, Maintenant j'y vais sur Radio Plus.
Hello, salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi Radio Plus pour poursuivre votre après-midi. Il est 15h et même un peu plus et c'est Maintenant j'y vais, votre magazine d'actualité et de découverte musicale et culturelle, comme chaque mercredi. Et c'est encore un mercredi chanceux qui nous attend, puisque après Jus, la semaine dernière, venu nous présenter en premier son EP Instinct, et bien là encore nous allons parler d'un album très fraîchement sorti puisqu'il est paru le 25 septembre dernier, un album dont le titre résonne bien étrangement face à l'actualité, puisque à l'heure où l'on restreint notre droit de sortir, d'aller s'époumoner en concert ou encore d'aller refaire le monde autour de quelques verres entre amis, mon invité sort un album intitulé Liberté, un album 12 titres, et son nom ne vous sera pas inconnu si vous êtes parmi les plus fidèles de l'émission, puisque je l'ai déjà reçu il y a à peu près 2 ans. C'était à l'occasion d'un Maintenant j'y vais consacré à l'accompagnement artistique, où nous avions brièvement présenté son projet. On la suit depuis avec grand plaisir et elle revient grandie de ses accompagnements sans doute, et avec un tout nouveau disque qu'on a découvert en avant-première et qu'on est heureux de défendre. Mon invité ce mercredi en interview et en session live, nous sommes donc doublement heureux, c'est Ségolène. Salut Ségo.
Salut Julien.
Et j'ai bien insisté sur la séparation en 2 mots parce que Ségolène, ça n'est pas que toi, c'est un trio, initialement un duo, on en parlera, porté donc par ta voix et par ta harpe et également par l'accordéon d'Alexandre Prusse ainsi que le batteur dont tu vas nous rappeler le prénom.
Nicolas Perronnet.
Nicolas Perronnet qui t'accompagne effectivement à la batterie. On est donc ensemble pendant un petit peu moins d'1 heure à la découverte de cet album Liberté. Et avant de parler de cet album, permets-moi tout d'abord de te demander, en cette période compliquée, comment tu te sens moralement, artistiquement? Il y a plein de choses là qui se sont produites pour toi ces derniers jours, la sortie d'album, le concert release party. Voilà, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton état d'esprit du moment.
Eh ben écoute, des sentiments mêlés comme depuis plusieurs mois. Ça va, il y a eu effectivement la release party, on a été très heureux que ça puisse se faire en public au Café de Paris à Tourcoing la semaine dernière. Ça a été une belle date, on était voilà, c'est une petite salle mais c'était complet, donc malgré les masques, ben c'était chaleureux. On a la chance de jouer au CCA de la Madeleine là ce vendredi là, donc on est quand même dans une dynamique de répétition malgré des annulations de concerts, donc on va dire qu'on est au présent, on travaille. Il y a des choses qui sont effectivement parfois compliquées à gérer au quotidien, mais ça va, on a le moral.
Et on le rappelle, on rassure aussi ceux qui se posent des questions, il y a tout de même des concerts maintenus, hein. Tout n'est pas annulé, c'est difficile, parfois
oui.
Il y a des annulations en dernière minute, mais les concerts dont on vous parle dans cette émission, sauf si on vous précise le contraire, ils sont bel et bien maintenus, et tu as donc plusieurs dates qui vont arriver et dont on reparlera tout à l'heure.
Ok.
Alors, je l'ai dit, Ségolène, c'est un duo devenu trio, j'aimerais bien que tu nous retraces un petit peu justement l'histoire de ce projet.
Oui, alors ça s'appelle Ségolène en 2 mots parce que mon prénom c'est Ségolène, ça a démarré même en solo en fait il y a un petit peu plus de 2 ans quand on s'est rencontrés. Je quittais le solo, donc j'étais harpe et des pédales de loops et je venais de commencer ce duo avec Alexandre Prusse à l'accordéon. Et on trouvait que ça marchait vraiment bien, on avait fait une première date un peu improbable avec en première partie de Trust au concert au festival Roubaix Accordéon. Et puis ça a vraiment bien matché entre nous, donc on a eu envie de continuer à chercher entre nos deux instruments acoustiques, à la fois l'accordéon, le côté le souffle de l'accordéon et puis les aspects cordes pincées de l'art, enfin tout ça se mêlait plutôt bien. Et puis l'année dernière, en 2019, lors d'une formation au 99 bis, donc après cet accompagnement artistique, j'ai rencontré Eric Janson, donc qui est le bassiste et l'arrangeur, un des arrangeurs de HKL et Saltimbank, et qui, voilà, on a bien accroché. On était en pleine réflexion sur un album à sortir, et il nous a proposé des arrangements. Voilà, des arrangements qui du coup permettent de mettre à la fois en valeur nos instruments acoustiques, harpe, accordéon, avec des séquences électro qui, bah, du coup, préfigurent quelque chose d'un petit peu plus urbain, on va dire, une alliance un petit peu plus actuelle. Je ne sais pas si ça a vraiment du sens, ce terme-là, mais en tout cas, c'était une recherche, voilà, qui de relier aussi nos instruments acoustiques à des pratiques amplifiées. Et les propositions d'arrangement de, d'Eric nous ont beaucoup plu, donc on s'est dit, bah, bingo, on cherche ensemble. Et ça a permis là de, bah, voilà, de créer un album, bah, qui est sorti, comme tu l'as dit, la semaine dernière, qui est distribué par Inouï Distribution. Et en même temps, ça nous a permis de créer le live au mois de juin, donc juste après le confinement, et d'ouvrir cet espace live à une troisième personne, à Nicolas Perronnet à la percussion.
Alors, vous avez, surtout toi d'ailleurs, et sans doute Alexandre aussi, un parcours de formation de musique classique. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, surtout que tu as démarré en solo, je vais, alors pas dire délaisser, mais je vais passer de la musique classique à la musique avec mes propres textes, mes propres compositions, mes propres chansons. Quel a été le déclic en fait ?
Alors, bah, le déclic, ça a toujours été là en fait, ça a toujours été présent. Dès que j' ai commencé la harpe, donc à l'âge de 8-9 ans au conservatoire, j'ai vraiment eu un parcours classique. Et, mais c'est un parcours classique que, d'une certaine façon, j'ai jamais complètement assumé, où il y avait toujours cette envie d'avoir le, à la fois le cœur entre deux chaises, à savoir être dans une formation classique, un parcours de harpe classique, et en même temps, vraiment le désir d'exprimer... de m'exprimer un peu autrement avec la voix. Il y a toujours eu le théâtre, il y a toujours eu un peu de cours de chant, un peu de jazz, toujours des, voilà, des petites choses qui ont un peu métissé ce parcours classique. Donc la chanson, c'est arrivé à un moment où en fait c'était prêt, ça faisait longtemps que j'y pensais. Et puis j'avais envie de, dans cette vie d'intermittente de spectacle aussi en orchestre avec des projets vraiment géniaux auxquels j'ai participé, j'avais aussi envie de d'exprimer des choses plus personnelles. Donc c'est comme ça que c'est né.
Et pourquoi la harpe comme instrument de prédilection ? Qu'est-ce que tu nous dirais aussi pour faire découvrir cet instrument ? Pourquoi est-ce qu'il t'a plu ?
Alors la harpe, c'est un instrument qui est génial parce qu'on peut faire bon énormément de choses avec cet instrument. Tu m'en parlais avant de certaines de musiciennes, notamment dans le jazz ou dans la musique contemporaine, expérimentale, même en chanson. En fait, peut-être qu'il y a un peu plus de lumière sur ces musiciens-là, mais l'harpe a toujours été très présente, notamment dans justement à la traversée de chemin entre musique. C'est un instrument qui se mêle vraiment bien à des pratiques qui lient la voix au corps. C'est un instrument assez complet avec lequel on peut, qui a autant, là, la grande harpe avec laquelle je travaille, elle a une ampleur, une étendue quasi aussi importante que celle d'un piano. Donc on peut, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des pédales. C'est un instrument à cordes pincées. Donc j'ai vraiment le doigt, la chair du doigt qui pince la corde, donc il y a aussi un travail sur le timbre qui est intéressant. Donc en ça, c'est un instrument qui est assez fascinant, qui est plein de facettes. Et en même temps, il y a une originalité dans l'harpe, je crois, qui m'a beaucoup plu quand j'étais enfant. C'était l'idée de ne pas faire comme tout le monde, en fait, simplement, d'avoir une espèce d'existence à part entière. Et dire que je faisais de l'harpe, ben forcément, tout de suite, ça dénote, ça me plaisait.
Alors très très brièvement sur cette question, on en parlait effectivement hors antenne, on voit aussi des projets mis en lumière autour de l'harpe. On pense à Laura Pérudin qui devait se produire au Festival du Poulpaphone il y a quelques jours, festival qui malheureusement a été annulé. Il y a ton projet qui vient de sortir, Liberté, et puis il y a eu autre chose avant, il y a eu le disque qui s'appelle Après l'amour, hein, juste avant, dont on va parler dans un instant. Est-ce que tu dirais, alors j'espère que tu ne prendras pas ça comme un gros mot, mais est-ce que tu dirais que la harpe est un instrument qui se démocratise dans la diffusion, justement, en radio ou dans des projets culturels, artistiques ?
Oui. En tout cas, ce serait bien. Après, la harpe, elle a plein de formes. Elle existe, donc là, il y a ces grandes harpes, Laura Pérudin. D'ailleurs, je connais pas très bien, c'est pas bien, j'irai écouter tout à l'heure. Mais il me semble que dans beaucoup de projets que je connais, il y a aussi l'harpe celtique, elle est souvent beaucoup plus démocratisée, entre autres, je pense, de par son prix. Mm-hmm. Après, je pense que c'est vraiment un instrument, oui, qui mérite les devants de la scène. De traîner une grande harpe dans un bar, c'est un plaisir quand même assez particulier.
Alors, au-delà de ta formation, moi j'aimerais savoir un petit peu ce que tu écoutais à la maison quand tu étais justement enfant. Qu'est-ce qui t'a influencé musicalement ?
Alors, moi j'écoutais beaucoup de chansons françaises. J'écoutais beaucoup des choses comme Véronique Sanson, comme Yves Montand. J'étais très fan. J'avais des CD en boucle d'Yves Montand, de Bourvil. Mes parents écoutaient beaucoup plus de musique. Ma mère écoutait un peu du Marie Laforêt. J'entendais ça à la maison. Mon père écoutait Bonnie M. Voilà.
Éclectisme alors.
Ouais, c'était assez éclectique. Bon, on écoutait aussi de la musique classique. Bon, moi, j'en faisais dans la journée. Des fois, en rentrant le soir, j'écoutais justement. J'aimais beaucoup la chanson à texte. C'est toujours quelque chose qui m'a permis de voyager. J'écoutais beaucoup Renaud aussi. Et après, adolescente, j'étais assez fan aussi de Keith Jarrett, voilà, qui m'a suivi pendant plusieurs années, ou un guitariste qui s'appelle Pat Metheny. J'aimais beaucoup un album qui s'appelait Imaginary Day, qui est sorti, moi, il y a longtemps, ça doit faire 15, 20 ans, et que j'aimais, voilà, que j'ai beaucoup écouté. Donc des choses vraiment différentes.
On a parlé de ton parcours, moi j'aimerais qu'on parle de ta discographie, parce que là il y a l'album, mais c'est pas ton premier disque.
Non, il y a eu un EP, effectivement, Après l'amour, qui avait été enregistré par Road Studio, Benjamin Mathieu, donc c'était en 2017, je crois. Et c'était l'idée d'avoir une espèce de carte de visite, ou de première entrée dans ce territoire-là de la chanson, permettre de faire écouter des choses, et puis de pouvoir voilà, graver texte et musique, c'était très simplement harpe et chant.
Et là, il y a le premier album qui est sorti le 25 septembre. Ça représente quoi aujourd'hui pour une chanteuse de sortir un premier album ?
C'est la matérialisation d'un long travail. On a travaillé un an et demi. C'est beau. C'est des rencontres. C'est vraiment une énergie humaine très importante. C'est quelque chose qui est obsédant, en fait, au bout d'un an. Là, ça a duré un an et demi, on va dire, ce parcours-là, sur cet album-là, en tout cas, de décider d'y aller. C'est beaucoup de démarches, c'est voilà, essayer aussi de comprendre comment faire au mieux. On est à la fois sur l'artistique, mais en même temps il a fallu essayer de chercher des partenaires, trouver un distributeur, et puis quand on est émergent, il y a beaucoup de choses qu'on fait aussi soi-même. L'album est autoproduit, donc ça a été un immense travail. Voilà, ce que je retiens, c'est l'énergie humaine et l'enthousiasme et la façon dont ça s'est transformé. Voilà, je m'imaginais pas être là aujourd'hui avec cet album là, mais il a pris des formes qui sont nées au fur et à mesure des rencontres.
Et nous, on est en tout cas contents de défendre cet album. Ségolène est notre invité dans Maintenant j'y vais.
Maintenant j'y vais avec Julien.
Alors, dans un instant, tu vas nous faire découvrir notamment un extrait de Liberté en session live. Tu vas nous jouer deux titres. Alors, comme je vais le rappeler à nos auditeurs, la session live, pour le moment, en raison du contexte sanitaire, c'est deux titres. Et j'en suis le premier, désolé, parce que moi, j'aimais bien mes trois titres, mais c'est un peu compliqué à mettre en place. Tu vas nous présenter le premier titre que tu vas jouer dans quelques instants. Ensuite, tu vas aller t'installer et tu nous présenteras à la fin de ton premier titre, le deuxième que tu vas nous jouer. Mais parle-nous tout d'abord du premier titre que tu vas nous interpréter.
D'accord. Alors, le premier titre ne fait pas partie de l'album, d'ailleurs.
Ça, c'est un joli cadeau aussi.
Ben voilà, il s'appelle Quai d'Orsay. C'est un titre qui fait partie du live, parce qu'après l'album, il y a aussi l'idée de donner une impulsion pour être aussi sur scène. Voilà, musicien qu'on est, nous, c'est un endroit où on aime être. C'est une chanson que je chante seule aussi, d'ailleurs, sur la grande harpe pendant ce live. Voilà, je vous laisse la découvrir. Tu veux que je la commente un peu avant de...
Ben écoute, non, on va la découvrir. Tu vas aller tranquillement t'installer tu as eu la gentillesse justement de nous accepter de jouer le jeu de la session live acoustique. C'est une vraie première pour nous, puisque c'est la première fois qu'on va proposer une session harpe-voix. Alors je le disais pour les habitués de l'émission, je le rappelle, habituellement les artistes invités qui viennent jouer en studio jouent trois titres, deux compos, et une reprise. Mais la crise sanitaire oblige, on est obligé de les faire changer de pièce, on est obligé de respecter quelques distances et pour ne pénaliser le moins possible les émissions de Betty et de Bernard et leur préparation, on ne fait plus que deux lives qui s'enchaînent pour permettre à tous les animateurs du mercredi de travailler dans de bonnes conditions, en tout cas les meilleures possibles. Merci d'ailleurs à Jean-Philippe qui a assuré la balance de la session live qui va suivre dans quelques instants, et merci à Angèle qui assure la liaison son de l'autre côté de la cabine. On espère pouvoir très vite reprendre les lives tels que nous les avons connus. Ça pourrait bien arriver d'ailleurs avec quelques groupes qui nous ont d'ores et déjà proposé des home sessions, mais on en reparle. En attendant, eh bien, c'est le live de Maintenant J'y vais.
Hey, hey, c'est à toi là. Maintenant J'y vais. Le live sur Radio Plus.
Ségolène est en place. Voici Quai d'Orsay sur Radio Plus. C'est le live de Maintenant J'y vais.
Chambre de bonne, ma bouche disait ce qu'on m'a ôté cette nuit saigne encore aujourd'hui. Et dans Paris, mon cœur pleurait sa peine près de Rivoli. Et dans Paris, mon cœur s'est détaché, il survolait cette prison de fin d'été. Mon cœur pleurait sa peine près du quai d'Orsay. Arrête, il n'a pas écouté. Il a mis sa main sur mes fesses et tout le cœur qui criait. J'ai pensé ne rien dire, m'éviterait de mourir. À m'enfuir, j'ai songé, mais le corps était figé. J'ai fermé les yeux, j'ai senti un vent invide, immense, quand m'a pénétré cette autorité sans conscience. Et mon âme, comme au cinéma, a changé de lieu. Ça n'était plus moi derrière mes yeux. Et dans Paris, mon cœur pleurait sa peine. Mon cœur s'est détaché, survolé cette prison de fin d'été. Mon cœur pleurait sa peine près du quai d'Orsay. Mademoiselle, portiez-vous une jupe le soir des fées? Vous considérez-vous comme une fille facile? Pas de morale, juste des faits, le temps d'un procès, la vie immobile. C'était quand ou pourquoi, comment, racontez-nous. D'autres versions des faits nous disent que vos mœurs sont légères. Moi je me souviens juste que l'air était doux, la lune était pleine et c'était bientôt mi-août. Et dans Paris, mon cœur pleurait sa peine près de Rivoli. Et dans Paris, mon cœur s'est détaché, il survolait cette prison. Mon cœur pleurait sa peine près du quai d'Orsay.
Voilà, c'était quai d'Orsay. Et je vais continuer une deuxième chanson qu'on joue, donc qui fait partie de l'album, qui s'appelle Après l'amour, et dont le refrain un peu magique, comme une petite formule de Mary Poppins, se dit Stadi Dolida Lidadi Boum Boum, et vient réparer les cœurs.
Qu'est-ce qui reste? Ramasser nos cœurs en miettes. doux, des gestes doux, au feu, aux flammes, nos deux corps fous. Stali doli dali dali boum boum, mon cœur, ton cœur, son cœur, stali boum boum. Stali doli dali dali boum boum, mon cœur, ton cœur, son cœur, stali boum boum. Stali doli dali dali boum. L'amour reste un cri, l'absurde dit, l'absurde rit. Stali doli dali dali boum boum, mon cœur, ton cœur, son cœur, stali boum boum. Stali doli dali dali boum boum, mon cœur, ton cœur, son cœur, stali boum boum. Stali doli dali dali boum boum.
Maintenant j'y vais, session acoustique.
La jolie session acoustique de Ségolène à l'instant dans Maintenant j'y vais. C'était le titre Après l'amour que vous avez pu découvrir, qui fait donc partie de cet album Liberté, sorti le 25 septembre dernier et sorti chez Inouï Distribution. Et en attendant que Ségolène s'installe à nouveau, eh bien il est l'heure, s'installe pour la suite de l'interview, puisque le live est bel et bien terminé. Je sais qu'on aimerait continuer, mais ça n'est pas forcément aussi possible et aussi facile que l'on voudrait. Mais en tout cas, c'est l'agenda que l'on va retrouver dans Maintenant j'y vais.
Laissez-vous guider, Julien s'occupe de tout. Maintenant j'y vais, l'agenda.
Et cet agenda, eh bien, il reprend quelques dates que l'on vous communiquait déjà la semaine dernière, puisque on surveille un petit peu ce qui se passe, mais les concerts, c'est toujours un petit peu difficile à mettre en place, un petit peu lent à se mettre en place en ce moment. En tout cas, il y a en concert Jeff Kino, ce sera au Petit Théâtre de Templeuve le 2 octobre à 20h30. Il reste peut-être encore quelques places. N'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse suivante o.petit.théâtre.59@gmail.com. Jeff Kino qui sera également à l'Odéon à Auchel le 9 octobre à 20h30, tarif de 3 à 8 euros pour réserver, c'est au 03 21 02 86 15. Et puis l'Itakira sera en concert pour fêter ses 10 ans au Barabao, rue de la Gare à Bailleul, le 3 octobre à partir de 20h30. Des guests, des nouveaux titres et ceux que vous connaissez déjà. Concert gratuit, consommation obligatoire dans le respect des gestes barrières, bien évidemment. Et puis côté actu musical, il y a votre Jus qui sort son nouveau clip. Il y a le nouveau clip de Jus qui s'appelle L'Arme, qui est paru ce matin à 11h30. On en parlait sur Maintenant j'y vais sur Radio Plus la semaine dernière. Alors Jus qui a sorti son nouveau clip réalisé par W2A Productions. Je vous invite vraiment à aller voir son clip sur sa page Facebook. Et puis Ségolène est avec nous, elle est là pour parler évidemment de son album Liberté, mais il y a aussi des concerts qui arrivent et c'est le moment, puisque c'est l'agenda, de nous parler des dates de concerts qui approchent, Ségolène.
Oui, alors la prochaine c'est ce vendredi, on joue au Centre Culturel d'Animation de la Madeleine, le Millénaire, donc c'est à 20h, donc vendredi 2 octobre. Toutes les infos sont sur le sur Radio Plus.
Ouais, on va relayer tout ça, oui, parce que si vous allez sur le site de Radio Plus, déjà vous allez retrouver d'ici la fin de l'émission le podcast de cette émission réalisée avec Ségolène, et puis on vous a mis aussi en annonce de cette émission, et bien les prochaines dates de concert, le site internet de Ségolène, sa page Facebook, son compte Instagram. On vous a mis aussi le clip justement qui promeut cet album Liberté. En bref, il y a tout pour retrouver toutes les infos. Direction effectivement le www.radioplus.fr.
Maintenant j'y vais avec Julien jusqu'à 16h.
Et on va entrer dans le vif du sujet et parler de cet album Liberté, 12 titres, des textes qui parlent à la fois d'amour, de l'incertitude de l'humain, de doutes qu'il peut rencontrer. Qu'est-ce que tu as voulu faire passer à travers cet album ?
Alors, je crois que des chansons, c'est un regard à chaque fois sur sur effectivement qui je suis, comment je perçois le monde, et c'est un peu comme une traversée, cet album Liberté, comme la première chanson. L'album s'ouvre sur un titre qui s'appelle Coup de foudre, et qui parle aussi de l'attente, ou de ces, et puis la suivante, Cruauté du monde, d'un monde qui parfois nous dépasse, qu'on a du mal à comprendre et à saisir. Et puis il y a cette traversée là, la traversée de cette femme que je suis, et qui au-delà de ses incompréhensions, au-delà de l'attente, au-delà de la tristesse, va aussi chercher à transformer tous ces sentiments-là, jusqu'à la chanson que j'aime bien à la fin de l'album. Pour moi, c'était important aussi d'aller vers quelque chose qui soit comme une ouverture, d'aller vers de la lumière, la porte ouverte, vers autre chose, un autre album, la suite, enfin en tout cas de... La dernière chanson qui s'appelle Miroir, c'est aussi l'idée que il y a de la beauté dans tout ça, et que c'est aussi important. Là, je m'adressais à moi en l'écrivant, d'apprendre aussi à la regarder.
Particularité de certaines de ces chansons que tu interprètes et qu'on retrouve sur cet album, c'est un peu cette manière, non pas de les chanter, mais peut-être de les parler à la manière dont on raconte une histoire. C'est pas vraiment du slam, mais il y a quand même ce ton plus posé qui diffère un petit peu de la chanson avec laquelle on va essayer de mettre une sonorité, une rythmique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ces chansons-là et de pourquoi ce choix ?
Oui, alors tu dois parler de Coup de foudre, Trop grand, Quai d'Orsay. Oui, c'est vrai qu'il y a c'est pas conscient en fait, c'est marrant. Hein. J'aime bien raconter. Alors c'est drôle parce que quand tu parlais de l'harpe tout à l'heure et du fait qu'aussi il se passe des choses très différentes autour de l'harpe, c'est-à-dire qu'on puisse chanter, parler. Moi j'ai participé avec des compagnies aussi à des choses avec autour du corps, de la danse. C'est un instrument qui peut être à la fois puissant mais qui est aussi très doux, qui enrobe. Et il me semble que c'est un instrument dans beaucoup de cultures aussi, notamment dans certains pays d'Afrique, où c'est un instrument qui sert au conteur beaucoup et qui porte la parole. Alors peut-être que du coup le fait de jouer de l'harpe aussi m'incite, en tout cas je sens que cette parole-là, elle, avec l'harpe, elle appuie quelque chose qui la porte en fait. Mais c'est vrai, tu vois, que c'est marrant que tu le soulèves, parce que pour moi c'est quelque chose que je conscientise finalement. C'était pas c'est les formes. C'est toujours difficile de parler des chansons. Parce que c'est un processus, ça devient une petite forme en elle-même, et il y a des choses dont on arrive à parler peut-être dans le temps, en prenant un peu de distance dessus.
Parlons justement de la manière dont tu as travaillé pour écrire et composer ces chansons. Tu as dit tout à l'heure qu'il a fallu un an et demi pour que l'album voie le jour. On parlera de l'aspect enregistrement dans quelques instants. Moi, j'aimerais savoir ce qui a été le déclencheur pour se dire: je vais écrire des textes dans l'optique de sortir un album. Déjà, est-ce que ça a été cette logique-là ? Comment est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu es plutôt dictaphone, smartphone, petit cahier qui traîne ça et là ? On aime bien savoir un peu les coulisses ici, les petits secrets de fabrication. Alors, on t'écoute.
Ouais, ça, je comprends. Un peu tous les petits carnets. D'ailleurs, au bout d'un moment, j'en ai tellement que j'essaye de les mettre tous dans un même carton pour les relire et essayer de refaire un carnet à partir de 10. Donc, il y a des chansons qui, des fois, arrivent de... qui ont des années qui sont transformées d'un texte qui est reparti sur un autre texte. Ça a été le cas de Coup de foudre, qui est une chanson qui a muté beaucoup. Et puis, il y en a d'autres, comme La cruauté du monde, par exemple, ou Quai d'Orsay. J'observe que c'est vraiment comme l'aboutissement d'un chemin, en fait, de, de quelque chose qui va me toucher, qui m'atteint directement ou indirectement, et puis avec lequel je vais pas savoir quoi faire, où je vais avoir peut-être un temps où la cruauté du monde, je l'avais écrit après avoir entendu une émission autour de l'eau potable et du fait que voilà, il y avait des milliards de personnes qui avaient plus accès à l'eau potable aujourd'hui, et ça m'avait sidéré en fait. J'avais passé un temps très déprimé après avoir entendu ça. Je savais pas quoi faire de ça, et ce que je racontais en concert, c'est qu'après, ce qui est vrai, après avoir été très déprimée, avoir pleuré, j'ai écouté Didier Super en boucle, et c'est là que je me suis dit que
ça dégage un peu les oreilles. Hein.
Dans les situations les plus dramatiques, en fait, l'humour, il est tellement essentiel. Merci, mesdames, messieurs, les humoristes. En tout cas, c'est dans ces moments-là, c'est un peu processus qui me permet de prendre un peu de distance quand je suis pas bien. Et puis, au bout de ce processus-là, il y a l'écriture qui arrive à chaque fois, et puis il y a que ça vient libérer des choses. Je sens que c'est un processus que j'aime, moi, mettre en mots après, formuler les choses, et puis ça devient ou pas des chansons.
Alors justement, en parlant de chansons, il y en a deux qui figuraient sur ton précédent disque, c'est Coup de foudre et Après l'amour, qui reviennent de nouveau sur cet album. Qu'est-ce que tu as changé sur ces chansons?
Alors, j'ai changé, je me suis fait accompagner pour les arranger. Je les aimais bien. Je trouvais que le premier EP, du coup, comme il n'y avait pas eu vraiment de promotion autour de l'EP, j'avais envie de porter ces chansons, ou ces textes. Donc, j'avais envie de les réenregistrer et d'amener l'énergie. Alors, à la fois la puissance de l'accordéon, l'énergie de la percussion, et puis les séquences électro d'Éric Janson, voilà, ça a permis, je trouve, de leur donner un autre souffle que j'aime bien.
C'est le moment, tiens, justement, de parler un petit peu des secrets de fabrication. Et là, on va parler de son autour de cet album. Tu t'es donc entouré d'Éric Janson, hein, qui est notamment arrangeur de HK. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration? Quelle a été la patte d'Éric Janson?
Alors, Éric, quand on s'est rencontrés, il avait écouté certains enregistrements de notre duo, donc juste harpe et accordéon. Je pense que ça l'a suffisamment séduit pour qu'il me rappelle ensuite en me disant que voilà, il y avait des choses qu'il aimait, mais qu'après lui, il y a des choses qu'il ferait comme ça, qu'il enregistrerait plutôt comme ça, et pour lui ça manquait d'arrangement, et il m'a dit qu'il me ferait une proposition. Et puis effectivement, il nous a fait une proposition sur Coup de foudre. Justement, quelques mois après, et puis on l'a écouté avec Alexandre Prusse, donc l'accordéoniste avec lequel je travaillais. Et on a vraiment été, enfin moi ça a été le coup de foudre en fait. Vraiment, j'ai trouvé ça super. J'ai beaucoup aimé, voilà, la vision qu'il avait du coup de cette musique-là, et puis ce qu'il faisait naître aussi avec ses séquences. Et donc on a commencé à collaborer ensemble, donc ça a été... C'est long, ça a été avant le confinement, donc c'était la période hivernale, moment où bon voilà, on a essayé de tracer avant le début du confinement, mais ça a duré. Ensuite, il y a eu plusieurs mois, voilà, où j'ai envoyé une musique, il m'envoyait des arrangements, on faisait des allers-retours, et puis jusqu'à se mettre d'accord sur des partitions aussi pour nous, et puis on est passé en studio d'enregistrement.
Et le studio, justement, tu avais gardé le même que sur le précédent EP, à savoir le Road Studio avec Benjamin Mathieu?
Ben non, alors c'était super aussi avec Benjamin Mathieu. Après, là, il y avait vraiment une équipe avec laquelle Éric avait l'habitude aussi de travailler. En tout cas, il nous avait proposé de travailler avec Andrew Robbins, qui donc a pris le son et a masterisé l'album. Donc on lui a fait confiance aussi dessus. On a travaillé, donc on a enregistré à Lille, et donc en essayant de chercher comment amplifier correctement la harpe, l'accordéon d'Alex, accordéon chromatique.
Et ça a donné ce bel album qui s'appelle Liberté, sorti le 25 septembre dernier, il y a quelques jours, hein, vraiment. On est sans doute parmi les premiers à vous le faire découvrir sur l'antenne de Radio Plus. Comment est-ce qu'on se procure ce disque à l'heure actuelle?
Alors, on se le procure via notre distributeur, donc Inouï Distribution. Voilà, Inouï, I-N-O-U-I-E, Distribution. Il est sorti à la fois en physique, donc il est placé à la Fnac, à Leclerc, Cultura. Vous le trouvez en physique à plein d'endroits. Et puis en streaming
Spotify, tout
sur
ça.
Toutes les plateformes dédiées, voilà. Effectivement, et ce bel objet, justement, je l'ai entre les mains. J'aimerais que tu me parles de la pochette, justement. On te voit sautillante, essayant peut-être d'attraper quelque chose avec un effet miroir. Oui. C'est aussi justement le titre de deux chansons, Miroir 1 et Miroir 2. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des coulisses, là aussi, de cette pochette?
Oui, et bien je saute sur un trampoline. Voilà, c'était une séance imaginée par Benjamin Trouille, donc qui a créé la pochette de l'album, le graphisme, et en collaboration avec Charlotte Humez, donc qui a pris les photos. Et donc ils ont imaginé, ils se sont dit un album, liberté, comment d'une façon graphique, physique, on peut essayer de le retranscrire. Et donc ils m'ont fait sauter toute une après-midi sur un trampoline. Ça a été sympa, c'était super, c'était crevant, mais le résultat, je trouve génial.
Et t'es revenu en forme surtout, c'est ça aussi l'essentiel. Voilà, sans blessure. En tout cas, on le dit, on le redit, hein, cet album à se procurer donc chez tous les bons disquaires et auprès du distributeur, Inouï Distribution. Ségolène est notre invitée dans Maintenant J'y vais.
Le plein de découvertes musicales et de coups de cœur, c'est Maintenant J'y vais avec Julien, de 15h à 16h.
Et oui, c'est notre coup de cœur cette semaine, cet album Liberté de Ségolène. Avant qu'on parle des textes, j'ai dit en introduction que effectivement tu avais participé à des accompagnements. On s'est rencontré justement à l'occasion d'une spéciale accompagnement artistique. Tu étais suivi à l'époque par le 99. Tu étais venu nous en expliquer un petit peu les coulisses avec Yacine Boudlal. J'en profite d'ailleurs pour informer ceux qui nous écoutent que on consacrera une nouvelle émission à l'accompagnement artistique avec le nouveau chargé d'accompagnement Cédric Charbonnier au 99. Ce sera le 4 novembre prochain. Ce sera aussi l'occasion de parler de la compile Minerai numéro 3 qui est sortie aussi le 25 octobre, décidément un beau jour
septembre.
pour 25 septembre, pardon, oui, on n'y est pas encore, c'est parce que je suis pressé d'y arriver. 25 septembre et un beau jour effectivement là aussi pour la musique et puis pour la scène de notre région. Qu'est-ce que les différents accompagnements que tu as pu faire, parce qu'il y a aussi des résidences, il y a aussi d'autres rendez-vous artistiques auxquels tu as participé, qu'est-ce que ça t'apporte, justement, artistiquement ?
Moi, ce que je retiens surtout sont les rencontres. En fait, les rencontres que ça permet, l'échange. Et puis, ça ouvre, du coup, à chaque fois, des petites portes qu'on n'imagine pas. Justement, la rencontre avec Éric Janson, ça s'est fait lors de rencontres professionnelles organisées par Haute Fidélité en 2019. Bah, c'était sur le site du 99bis. Donc ce sont des moments où on rencontre d'autres artistes, d'autres acteurs de la scène artistique, et c'est moi c'est vraiment ce qui me porte à chaque fois dans ces rencontres là, dans ces accompagnements là. Après, en fait, c'est les résidences qu'on fait qui durent quelques jours. C'est après une matière dont on s'empare ou pas. C'est-à-dire quand on rentre après, du coup, ça ouvre effectivement toujours de nouvelles perspectives de travail.
Travail essentiel et qui permet aussi, et on rappelle aussi un petit peu les coulisses, de travailler à la fois sur le projet artistique, donc peut-être aussi des petits arrangements qui peuvent être modifiés, mais aussi surtout sur le live. Et c'est essentiel de pouvoir créer tant sur le plan lumière que sur le plan mise en scène, et ça permet de donner de bien jolis lives par la suite, toujours en tout cas dans la perspective de proposer un spectacle encore plus de qualité.
Ouais, et là d'ailleurs on a eu la chance d'être en résidence au mois de juin, donc après le confinement. Au départ, devait avoir lieu au mois de mars une résidence donc pour créer ce live, donc qui a été reporté, et on a eu la chance donc d'avoir en coproduction à la fois le Centre culturel de Ternier, Sylvain Monchy et Christine Souillard à la Barcarolle à Saint-Omer, qui nous ont à la fois mis les lieux du coup à disposition et aidé avec la région des Hauts-de-France à créer ce live. Et donc on a eu en tout presque une dizaine de jours de travail avec toute l'équipe. Donc on était c'est les trois musiciens, Nicolas, Alexandre et moi, plus Jessie Adjaoud aux percussions qui a donc créé en résidence le live avec nous, et à la mise en scène Saïd et Anaïd Zarouri. Aux lumières Thibaut Fourier. Et donc voilà, ça nous a permis d'avoir un espace de travail et des conditions de travail vraiment exceptionnelles en fait sur ces 10 jours-là, avec Andy Robbins toujours au son aussi, pour avoir un live qui sorte de l'œuf fin juin et qu'on commence à donner sur scène là depuis depuis la date de la semaine dernière, c'est tout nouveau, tout frais.
Et tout s'enchaîne dans le bon sens, et ça aussi c'est, j'imagine, un petit plaisir dans ce contexte où les concerts sont souvent en suspens, de pouvoir se dire que voilà, on va jouer quasiment deux semaines de suite, quoi.
Oui. Oui, oui, et c'est presque militant. On a un moment d'aller travailler, il y a quelque chose, on a envie d'y aller. On a, alors c'est difficile, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, parce que pour le public, ça demande un effort quand même, faut le dire. La journée, on est masqué, le soir, on revient masqué pour un concert. C'est pas évident, mais après, ça reste un moment de partage et dont on a vraiment besoin, je pense. Et d'ailleurs, pour citer les autres dates dont les salles aussi font vraiment l'effort, de maintenir les dates, de faire en sorte qu'il y ait à la fois les concerts, mais aussi des actions culturelles autour. On sera, donc après cette date-là au CCA, on sera en novembre le 13 novembre, on sera à l'Escapade à Hénin-Beaumont pour
première partie de Rose.
Ouais, tout à fait. Et ensuite le 20 novembre à Hasbrouck au Centre André Malraux en première partie de Clarica.
Voilà, et ça, il faut pas hésiter à se rapprocher des salles qui seront ravies de vous aiguiller justement sur la billetterie. On va continuer à parler des textes ensemble. Je vais citer quelques chansons piochées en vrac. On va évidemment pas présenter les 12 pour que l'auditeur ait envie de se faire aussi sa propre idée. Mais voilà, à toi aussi de nous présenter un petit peu les chansons de manière assez succincte. Il y a une chanson en espagnol, justement, oui, sur ce disque qui s'appelle Mujer de Agua.
C'est ça, et qui veut dire femme d'eau. Et cette chanson, elle parle d'une tristesse profonde qui est ressentie, qui est là, et qui, malgré la légèreté de la ville ou son artificialité, elle peut être présente. Et en chanson, elle est agréable presque à exprimer aussi. Dans cette chanson-là, il y a quelque chose de nostalgique. Elle est née en espagnol parce que j'ai vécu en Espagne. Je pensais que j'écris cette chanson-là au moment, sur les quelques années où j'ai vécu entre Bilbao et San Sébastien, donc dans le Pays basque espagnol. Et puis cette chanson, elle m'a suivie. Donc ça fait elle a connu plusieurs versions aussi. Et là, du coup, la version avec séquence électro et percussion permet d'avoir ce moment harpe et voix qui est sûrement assez, assez nostalgique, un côté un peu marin aussi. Cette femme d'eau, qui parle de cette tristesse avec peu de mots, et ensuite il y a un déroulé instrumental qui est beaucoup plus long et qui explose rythmiquement.
Qu'est-ce que je veux de ma liberté quand les sirènes viennent la détourner, l'oublier dans un papier doré où je m'endors sur papier glacé? Qu'est-ce que je crois de ma liberté, qu'elle est acquise, qu'elle ne vient pas gêner la liberté de celui-là à côté, qu'à ma place, on peut la mesurer? Ça, ce sont quelques paroles de liberté. Finalement, une chanson, malgré elle, d'actualité.
Bah oui, elle a été écrite. Alors, c'est drôle parce qu'elle a plutôt été écrite... je ne sais pas si ça a du sens de parler des contextes. Après, ça, c'est mes contextes à moi, perso, mais... C'était plus presque dans des élans de fin d'histoire d'amour, donc pas du tout lié à un contexte social, en fait, cette chanson-là, Liberté. Et puis, oui, effectivement, elle s'est même transformée sur scène, en fait, où pendant la résidence, ce qui est du troisième couplet, est devenu qu'est-ce que tu dis de nos libertés quand la Covid vient nous enfermer, quand nos peurs sont les seuls geôliers d'un monde qu'on a inventé. Et donc forcément, oui, ça résonnait.
Et ça prend encore plus de sens, on l'imagine, en live. Il y a une très jolie chanson, mais qui est aussi très tragique, c'est Eva Marie. J'aimerais que tu nous racontes en quelques mots l'histoire de cette chanson qui parle donc de cette femme au destin tragique.
Alors, Eva Marie, c'est suite à un documentaire de Ovidi que j'avais vu sur Arte. Et pareil, qui m'a saisie. Et cette chanson, elle a mis du temps à naître. Et elle, c'est un hommage. J'aime cette chanson comme d'aller donner un peu de lumière à cette femme, Eva Marie, qui est morte sous les coups de son ex-conjoint. C'est vrai que c'est une histoire sombre, qui s'est prostituée quelques semaines et qui donc a été dénoncée, et on lui a retiré ses enfants. Les services sociaux lui ont retiré ses enfants. Et ce qui m'avait aussi marqué, c'est le fait qu'elle a jamais voulu s'excuser, en fait, les services sociaux, en tout cas même la bonne morale, l'ont toujours incité, en gros, à s'excuser de ce qu'elle avait pu faire, ou de ce qu'elle est, de ce qu'elle était. Et cette liberté-là de dire, non, En fait, je vois pas pourquoi j'aurais à m'excuser de qui je suis, de ce que j'ai fait, de envers la morale d'une société qui ne l'a pas protégée, et elle est morte au sein des institutions. Hein, son ex-conjoint l'a tuée alors qu'elle devait voir ses enfants. Voilà. Cette histoire m'a. Je suis pas la seule. Hein, c'est un documentaire magnifique que je recommande à tout le monde, qui est visionnable, je crois, sur YouTube ou sur Arte, qui s'appelle Là où les putains n'existent pas. Et donc ça, c'est une. Eva Marie était une citoyenne suédoise.
Dernière chanson qu'on va présenter, c'est un duo avec un chanteur qu'on connaît et qu'on apprécie ici, le duo avec Benoît Bourgeois. La chanson s'appelle Trop grand. Comment s'est faite cette collaboration? Et que raconte cette chanson aussi?
Oui, alors Benoît, on a été accompagnés en même temps au 99 bis, quand on est venu il y a 2 ans. Et on était tous les deux sur un projet d'album qui est sorti. Lui, Benoît a sorti un album qui s'appelle Invisible au mois de... Bah, juste avant le confinement, hein, janvier-février.
Fin janvier, ouais.
Fin janvier, voilà, c'est ça. Et puis, j'avais envie de lui proposer de chanter avec moi. On s'entend bien, je crois qu'on a des sensibilités artistiques... commune. Et donc cette chanson, je pense que c'est ce que disait Benoît, je trouve ça assez juste, c'est un peu comme un merci à des personnes qu'on croise dans la vie qui sont gentilles, même dont on abuse peut-être parfois de la gentillesse, mais qui sont présentes dans des moments qui sont importants pour nous. Et cette chanson-là, voilà, elle dit merci à quelqu'un qui a permis de donner un envol à la personne qu'on devient en grandissant.
Eh ben, on en écoute un tout petit extrait et on revient juste après pour la dernière partie de cette émission. Voici Trop grand avec Ségolène et Benoît Bourgeois. Extrait de Trop grand, le duo entre Ségolène et Benoît Bourgeois, à retrouver sur l'album Liberté de Ségolène, sorti le 25 septembre dernier. On vous rappelle que cet album, vous pouvez l'écouter bien sûr sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal, puis bien sûr vous pouvez aussi vous le procurer en physique directement auprès d'Inouï Distribution, le distributeur de cet album. Pourquoi est-ce que justement il faut écouter, est-ce qu'il faut se procurer Liberté? Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui viennent de se brancher sur notre antenne pour les convaincre de tendre une oreille à ton album? Jamais facile hein, cette question, j'en ai conscience.
Oui. Tu me demandes d'être ma propre commerciale.
Je sais, c'est difficile.
Le plaisir de la découverte. Après, moi, je pense que c'est bien d'aller aussi écouter des choses émergentes, voilà, dont on n'a pas forcément entendu parler. Après, on aime, on n'aime pas. Il y a des choses qui plaisent, qui vont ressortir. Je pense que ça a l'originalité d'aller chercher un album. Je pense que c'est une expérience aussi. C'est un instant T. Donc, c'est aussi pour nous d'aller offrir un moment cette expérience-là, qui est d'aller mêler des instruments acoustiques qu'on n'entend pas souvent à des sonorités plus urbaines sur des textes. À des choses qu'on avait envie de partager. Donc voilà, ça s'est vraiment écrit et créé dans le partage, alors qu'on a envie de le faire partager, de le faire découvrir aussi.
En tout cas, nous, on est ravis de le partager, de le défendre et de vous faire découvrir cet album de Ségolène qui s'appelle Liberté. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Et avant de se quitter, on va retrouver le bonus de Maintenant J'y vais. Une rubrique qui surprend toujours nos invités. Vous allez comprendre pourquoi.
Vous avez toujours voulu connaître les petites histoires intimes des invités? Savoir qui de l'œuf ou de la poule? Ou ce que l'on trouve dans les dossiers cachés de leur ordinateur? Ça tombe bien! Julien est là pour leur faire dire qu'ils adorent la compagnie créole. Maintenant J'y vais, le bonus.
Apparemment, la compagnie créole est validée.
Eh oui, j'adore.
Et on va inaugurer ce bonus par quelque chose que voilà, j'avais envie de mettre en place aussi pour renouveler toujours un petit peu le concept de cette émission. Oh, je vais pas inventer l'eau chaude là-dessus, mais on va partir de l'idée que tu vas poser une question qui sera diffusée la semaine prochaine, dans l'émission de la semaine prochaine, à notre invité. Voilà, la question de ton choix, c'est à poser à Emmanuelle Ras, qui est directrice de l'Orchestre de Douai Région Hauts-de-France. Quelle est la question que tu aimerais lui poser?
Alors, bonjour Emmanuel. Je dirais de quelle façon mettrez-vous la harpe en valeur cette année à l'Orchestre de Douai?
Eh bien, on va la garder en stock. On lui fera, on guettera évidemment sa réponse la semaine prochaine. Et puis là, on va attaquer effectivement ce petit questionnaire bonus. Moi, j'aimerais savoir, comme ça, spontanément, sans réfléchir, ça va être un peu le principe de ces questions, puisqu'il nous reste vraiment peu de temps. Ta première émotion musicale, ça a été sur quoi?
Ça a été sur Lily Laskin à la harpe, une pièce de Debussy.
La chanson que tu peux écouter en boucle sans jamais te lasser?
La vida es un carnaval de Celia Cruz.
La chanson un peu honteuse mais que tu assumes d'écouter un peu à la manière de la compagnie créole finalement?
Peut-être le bal masqué en ce moment. Non, ma salle de bain.
c'est de circonstances évidemment. Là on a peut-être un petit peu plus le temps de développer. Il nous reste 3 minutes sur ces deux questions là qui vont arriver. La première chanson que tu as écrite, mais alors je parle pas de la première chanson que tu as fait figurer sur CD, je parle vraiment de la première que tu as écrite et que tu as peut-être ensuite laissé traîner dans un tiroir en te disant mon Dieu, je ne vais jamais oser sortir ça. Ça parlait de quoi?
Ah bah alors là, j'en ai aucune idée. J'ai commencé à écrire des chansons ou des textes à l'âge de 10 ou 12 ans. Mais Après l'amour, qui est sur l'album, ça fait partie des premières chansons que j'ai écrites et je pensais jamais me mettre à chanter un jour, en fait, je pensais jamais la chanter un jour.
On parlait tout à l'heure justement de la nécessité de prendre un peu de recul sur ce qu'on vit avant que ça puisse éventuellement inspirer un texte. Est-ce que il y a un voire des sujets sur lesquels tu ne te sens vraiment pas légitime d'écrire depuis que tu as envie d'écrire des chansons? Est-ce que il y a un sujet, des sujets qui te font dire non, voilà, ça je sais pas faire, je sais pas en parler?
Bon, a priori non. Enfin, j'ai pas de barrière de ce type-là. Après, il y a des choses. J'aime bien un proverbe qui dit c'est bien de marcher sa parole. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des sujets sur lesquels je vais pas me sentir légitime parce que c'est pas des choses que j'aurais traversées ou. Bon, voilà. Après, ce que je disais, c'est que dans le parcours, il y a des choses qui me touchent. Je sais qu'une chanson, ça va être plutôt dans l'autre sens. Alors, je ne vais pas m'interdire des choses, mais quelque chose qui va me toucher et me mettre dans des états ou d'éblouissement ou de sidération. Je sais que qu'il va y avoir une temporalité où à un moment, il y a quelque chose qui va en sortir au niveau de l'écriture.
Eh bien, c'est ainsi qu'on va terminer cette interview et particulièrement cette partie bonus. Merci Ségolène d'avoir été mon invité. On rappelle bien sûr que Ségolène, ça n'est pas un projet solo, c'est un trio avec Nicolas Perronnet à la batterie aux percussions et Alexandre Prusse à l'accordéon. Il y a un super album qui s'appelle Liberté, qui est à retrouver chez tous les bons disquaires, distribué par Inouï Distribution. Allez voir sur leur site internet. Ségolène, vous la retrouvez également sur Facebook. Vous tapez Ségolène, L-E-N, chanson. Vous la retrouvez également sur son site officiel sego-len.com. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, même punition, et ça sera justement avec l'Orchestre de Douai Région Hauts-de-France en compagnie d'Emmanuel Ras, qui sera notre invité pour nous présenter la saison. À suivre, Bernard et Tea Time, qui reçoit deux chanteurs. Là aussi, il reçoit d'abord la chanteuse Sabine Paturel, icône des années 80 avec son tube Les Bêtises. Ce sera une interview par téléphone et autre interview par téléphone à retrouver en deuxième partie d'émission avec Ali Lounis. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, même punition. Portez-vous bien, restez heureux et je vous dis ciao, bye bye.
Salut.